Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse, journée spéciale pour le climat sur France Inter. Quand la mode se fout du monde, c'est la une cette semaine de la revue Le 1 Hebdo. L'industrie du prêt-à-porter serait responsable de 8 à 10% des émissions de gaz à effet de serre de la planète. Quand nous achetons en masse des vêtements, vite produits, vite achetés, vite jetés ou vite revendus, nous contribuons au réchauffement climatique et aussi à la pollution des sols et des océans, sans oublier la catastrophe sociale liée à cette fast fashion, cette mode jetable qui nous plaît tant, des centaines de milliers d'ouvrières et d'ouvriers exploités à l'image des victimes de l'effondrement du Rana Plaza en 2013 à Dhaka au Bangladesh, qui abritait des ateliers de confection pour le compte de grandes marques internationales comme Primark ou Mango, 1135 morts. Mais pourquoi achetons-nous autant de vêtements sans forcément toujours les porter? Quel est le réel impact social et environnemental du prêt-à-porter? Quel rôle jouent les injonctions sociales et techniques du marketing pour nous inciter à toujours acheter plus? Coup de projecteur ce matin sur les dessous noirs de la mode. N'hésitez pas à poser vos questions au 01 45 24 7000 ou à nous laisser une note vocale sur l'appli France Inter. Bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi. Grand bien vous fasse.
They may seem like great deals, but there is a high cost to fast fashion.
Zara, accusée de faire travailler via ses sous-traitants des réfugiés syriens en Turquie et des enfants âgés de moins de 10 ans. Bonjour Antoine Gignot.
15 tonnes de vêtements de la célèbre marque danoise H&M partiraient chaque année en fumée. C'est ce que révèle une...
The term fast fashion has become a byword for...
Les marques de fast fashion ne veulent pas que l'on regarde plus loin que le bout du tissu.
La fast fashion, c'est plus d'économie informelle, plus de précarité.
De la naissance d'une robe dans un tourbillon frénétique.
De la commande à la livraison, tout compris, ça prend 12 jours.
Aux ravages causés par la production massive.
Ils voulaient cacher les maladies créées par la pollution.
Ils sont tous handicapés. Elle a seulement 26 ans.
Tirer le fil de ces petites robes au prix si attractif, c'est exposer la face cachée de la mode à bas prix.
Extrait du documentaire Fast Fashion, les dessous de la mode à bas prix, diffusé sur Arte en 2021. Bonjour Audrey Millet.
Bonjour.
Vous êtes ancienne styliste, chercheuse associée au CNRS, actuellement en poste à Oslo. Vous êtes spécialiste de l'histoire de l'habillement et vous publiez aux éditions Les Pérégrines un livre absolument passionnant, Le Livre Noir de la Mode, Création, Production, Manipulation. Bonjour Catherine Doriac.
Bonjour.
Vous êtes présidente de Fashion Revolution France et cette association a publié en avril 2020 un livre blanc. Vous êtes également rédactrice en chef adjointe de la revue UMAD.
You made,
voilà. Bonjour Thomas Ebelé, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes cofondateur du label Slow We Are, dédié à la mode, et vous publiez en format numérique La face cachée des étiquettes. Bonjour Julien Bisson.
Bonjour Ali Rébéi.
Rédacteur en chef de la revue Le 1 Hebdo, avec à la une, comment la mode se fout du monde.
Oui, il nous a semblé important de pouvoir évoquer cet aspect. On parle de beaucoup de sujets environnementaux. La COP26 arrive bientôt. Mais c'est vrai que la mode n'est pas toujours un sujet dont on se rend compte des dégâts qu'il peut représenter, dégâts sociaux, mais aussi environnementaux. Et donc, il nous a semblé important de consacrer un numéro entier à cette question.
Alors, et oui, qu'on le veuille ou non, nous sommes tous victimes de la mode. Qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? Comme le rappelle la journaliste Dana Thomas, les vêtements sont notre seul outil de communication, le plus direct et le plus fondamental. Ils véhiculent notre statut social et économique, notre profession, notre ambition, notre estime de nous-mêmes. Virginia Woolf écrit dans Orlando, aussi inutile et futile qu'il puisse paraître, les vêtements changent notre vision du monde et la vision que le monde a de nous. Mais le problème, c'est quand nous commandons en ligne, quand nous nous rendons dans ces magasins de mode jetable, quand nous achetons un jean, un pull, une robe, nous nous posons rarement la question de la provenance de tous ces vêtements à bas coût, Audrey Millet.
Techniquement, les vêtements, en fait, nous rendent beaux, sont confortables, nous chouchoutent, et tout ceci, en fait, on doit le prendre. Ils nous rendent forts également. En revanche, il faut également se demander si on n'est pas trop dans le paraître et dans l'ostentation et revenir à une certaine modestie des apparences, mais également une pudeur de l'ostentation et peut-être finalement à une certaine sobriété qui ne veut pas dire retourner au goulag et ne pas choisir ses vêtements tous les matins.
Et on se pose rarement la question de pourquoi ce t-shirt n'a coûté que 5 €? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce t-shirt à 5 €? Qui a fabriqué ce t-shirt? Dans quelles conditions a-t-il été confectionné? On ne se pose pas toutes ces questions quand on se rend chez Primark, chez Zara, chez Mango, chez H&M, chez Uniqlo.
Oui, alors on se positionne quand même, il faut bien le dire, hein, pour la démocratisation du vêtement. On veut que tout le monde puisse s'habiller, s'aimer et se faire plaisir. C'est important. Et on n'accuse pas seulement la fast fashion. La fast fashion, en fait...
La mode jetable.
Voilà. Cette mode jetable, elle date du XVIIe siècle. Elle date de la colonisation, lorsque les marins, les États anglais et français, ont dû mettre des marins et des soldats sur des bateaux pour aller coloniser le monde. Eh bien, il a fallu les habiller. Et voilà une première forme d'uniformisation. Au XIXe siècle, on a la fabrication, en fait la mécanisation, donc qui va accélérer ce mouvement. Et évidemment, post-Seconde Guerre mondiale, on a l'envolée donc de la seconde main, donc les GI en fait nous laissent leurs vêtements en Europe. Et ensuite, dans les années 80 et 90, avec la fin des quotas, de l'accord multifibre, là on a véritablement l'ouverture, le déversement dans tout, vous savez, ces bateaux, ces conteneurs, de vêtements à 3 €, à 4 €. Imaginez combien les gens sont payés derrière et dans quelles conditions ils travaillent.
Catherine Doriac, il faut rappeler une évidence, les vêtements à bas prix ne sont pas bon marché. Quelqu'un doit toujours les payer et ce quelqu'un, c'est le travailleur.
Et moi je dirais même c'est la travailleuse parce que 80% des ouvriers textiles sont des femmes et des jeunes filles, hein, des très jeunes filles même. Et oui, effectivement, c'est parfois ce qu'on oublie et notamment quand on est dans des magasins de fast fashion, alors pas seulement de fast fashion parce que souvent les marques de luxe produisent dans les mêmes endroits et alors à des prix peut-être un tout petit peu plus chers, mais finalement au bout du compte c'est toute l'industrie textile qui a montré du doigt sur ce sujet des salaires. Oui.
Audrey Millet, pour vous la mode jetable mérite largement sa mauvaise réputation. C'est pour vous un symbole de la mondialisation malade.
C'est un symbole de la mondialisation malade. Aujourd'hui, on accuse beaucoup, par exemple, le secteur du pétrole. Hein. Mais finalement, on est exactement dans le même cas. Trop de flux, trop de besoins créés, trop de marketing, trop d'images, des images déformées, en plus, qui ne sont pas la réalité, qui nous montrent à quel point nous sommes naturellement laids. Et donc, nous devons nous arranger. Cette petite robe va tout changer, bien entendu. En fait, non, il ne faut pas que ça se passe comme ça. Il faut retrouver l'essentiel. Et je pense que c'est quand même assez simple. L'être de sa propre personne et non pas le paraître seulement.
Alors, on va s'intéresser ce matin à la mode jetable, la mode rapide. Qu'est-ce que ça recouvre exactement?
La mode rapide, elle commence déjà, hop, vous allez sur un champ de coton. Vous allez au Texas, et en fait, vous avez là déjà des agriculteurs qui cultivent du coton et qui reçoivent les subventions américaines. Donc, ce qui leur permet d'exporter du coton à l'autre bout du monde. Puisqu'ils ont des subventions, le coton africain, bien entendu, sera plus cher. Et ce coton qui arrive à l'autre bout du monde, alors il peut aussi être cultivé hein, en Asie du Sud-Est, au Pendjab notamment, il est plein de pesticides. Ces pesticides, ce sont des enfants, des villages entiers qui les boivent. Et on a des villages entiers qui se dépeuplent. Des enfants qui ont besoin d'une greffe de rein à 3 ans. On ne veut pas ça pour nos enfants. Ne l'acceptons pas pour les autres. Et c'est aussi tout un tournant. Parce qu'on a l'impression que tous ces ateliers de misère, toute cette misère salariale, on a l'impression qu'elle est allée à l'Est. Mais non, elle n'est pas seulement allée à l'Est, elle est chez nous. Là, on se reprend quand même le tournant dans la figure. Leicester cet été...
Racontez-nous.
Alors Leicester cet été, donc on découvre tout d'abord à partir d'enquêtes que des salariés de marque, notamment Boohoo, n'ont pas par exemple de protection contre le Covid. En fait ça commence comme ça, tout simplement, juste une enquête. Puis on se rend compte qu'en fait c'est du marché noir, qu'il n'y a pas de contrat, qu'il y a des heures incroyables, pas possible. Et on est quand même au cœur de l'Angleterre, donc on est chez nous. Alors j'ajoute aussi que là on a parlé de Leicester scandale, pour moi le Rana Plaza, si vous voulez, c'est
au Bangladesh,
Bangladesh
en 2013.
En 2013, donc plus de 1100 morts,
1130,
c'est tous les jours.
C'est-à-dire qu'il y a quelques mois, c'était au Maroc. Et on ne trouve pas, vous savez, de chronologie, de timeline sur Internet. Moi, je trouve ça étrange. Il faut suivre ses affaires. Et je vous parlerai également de Prato. Prato, qui a été investi par les Chinois.
C'est quoi Prato?
Prato, c'est une ville à 20 km au nord-ouest de Florence, l'ancienne capitale textile de l'Italie. Alors là, vous avez les Médicis et toute l'histoire qui va avec, et les brocarts, qui a été investi en fait par les Chinois. Et à Prato, il y a deux mois, donc il y a de très très grands entrepôts chinois, à peu près 10% de la population chinoise, où les réglementations ne sont pas soutenues. À Prato, il y a deux mois, nous avons eu il y a un ouvrier qui est mort de faim dans un entrepôt. Mort de faim. À un moment, tout ça pour des vêtements. Il faut remettre l'essentiel à sa place.
Catherine Doriac, depuis le développement de l'industrie de la confection, eh bien, ce développement de cette industrie est ponctué de catastrophes humaines. Par exemple, un incendie dans une usine à New York le 25 mars 1911 qui a tué 146 personnes, jusqu'à l'incendie des ateliers de confection du Rana Plaza en 2013 au Bangladesh. Alors c'est une longue histoire.
Oui, le Rana Plaza, c'est pas un incendie.
C'est un effondrement. Hein.
Un effondrement qui était prévisible et prévu, en tout cas visible déjà plusieurs mois avant le 24 avril. Les ouvrières et les ouvriers avaient dénoncé des fissures dans les murs et refusé de retourner au travail. On les a enfermés dans l'immeuble et effectivement les murs sont tombés sur eux. Mais il y a d'autres. Ça n'arrête pas en fait les catastrophes. Alors ça, là, pour moi je dis toujours le Rana Plaza, c'est le Titanic de la mode, parce que c'est autant de morts que sur le Titanic. Et ça a été vraiment un électrochoc pour les citoyens, pour les politiques. À la suite de cet effondrement, il y a eu des lois discutées, notamment l'accord Bangladesh qu'on vient de re-signer cet été, et qui est passé juste, parce que l'accord Bangladesh, en fait, c'est un accord qui permet c'est signé par les donneurs d'ordre et les directeurs d'usines pour assurer la sécurité de leurs ouvriers. Donc il arrivait à expiration cet été, on a bataillé, plusieurs ONG ont bataillé pour que cet accord soit re-signé. Il a été re-signé cette année quelques temps. Il faut toujours être sur le qui-vive, en fait.
Thomas Ebelé, vous êtes cofondateur du label Slow We Are. Cet engagement est né avec l'effondrement de cet immeuble au Bangladesh en 2013.
Pour partie, oui, bien évidemment.
Expliquez-nous Slow We Are en quelques mots, avant de nous parler de votre engagement.
Ok, Slow We Are, c'est un label de confiance, un label RSE qui va authentifier la démarche éco-responsable des marques. Donc on va s'intéresser à la chaîne de valeur, mais aussi à la gouvernance, à la mission et la culture de l'entreprise. L'objectif, c'est d'avoir une vision à 360 et de s'assurer que les bonnes pratiques, elles se font tout au long de la chaîne de valeur et dans tout type de relation, que ce soit avec les fournisseurs comme avec les clients.
Alors, ce qui explique le succès de la mode rapide, de la mode jetable, c'est la vente de volumes sans précédent à prix cassé. Les prix cassés ne sont possibles que si les clients achètent de nouveaux vêtements dès leur sortie. Et bien sûr, les magasins développent leur propre stratégie de vente pour attirer toujours plus de clients. Par exemple, pour créer l'envie, certaines marques comme Zara produisent des articles en nombre très limité. Il faut vite changer pour contraindre le consommateur à suivre. C'est un peu la dictature du changement perpétuel, Audrey Millet.
Oui, c'est la dictature du changement perpétuel. Alors, je commencerai du coup par les créatifs. Oui. Parce que le créatif, tous les lundis, doit avoir une idée de génie. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Avant, on modifiait les silhouettes. Vous voyez un petit peu la silhouette Dior, Bar. Voilà une silhouette différente. Il y a une silhouette Yves Saint Laurent également. Aujourd'hui, il n'y a pas de silhouette. En fait, ça va être le même vêtement de base qui va être teint dans différentes couleurs. Tout simplement. Et tous les lundis. Et c'est la raison pour laquelle on est très très heureux d'avoir ce numéro du 1 Hebdo, parce que la presse aussi nous vend ces nouveaux produits. Alors ces produits, cette jupe qu'il faut absolument avoir, vous le savez, essentiel pour rattraper notre laideur naturelle. Et c'est très très important en fait de dire aux jeunes filles, de dire aux femmes que non, c'est pas ça un vêtement, c'est pas juste ce truc momentané. Cette chose impulsive, un vêtement, c'est quelque chose qui nous touche, quelque chose qui nous correspond et qu'on va laver
à la main s'il le faut, avec amour, parce qu'il nous correspond totalement et il nous transforme. Mais celui qu'on jette, celui dès qu'il y a une tache, franchement à 3,90€, pourquoi le laver ?
Julien Bisson.
Oui, ce qui est frappant, c'est que ce qu'on a longtemps appelé le prêt-à-porter est devenu un prêt-à-jeter. L'un des chiffres qui m'a le plus frappé quand on a préparé ce numéro, c'est le fait que 70% de notre garde-robe n'est quasiment jamais utilisé. C'est-à-dire que nous achetons des vêtements que nous allons porter une fois, deux fois, trois fois, et qui ensuite vont dormir dans notre garde-robe sans jamais être repris, et qui vont finir par être jetés dans une benne. On cite aussi ce chiffre, une benne de vêtements est jetée dans le monde à chaque seconde. Donc ça montre bien l'explosion du nombre de vêtements qui sont produits dans le monde. Mais pourquoi faire, si ce n'est pour pas les porter, ou pour les porter une fois, deux fois, trois fois? Et c'est là où il y a en effet un système qui marche sur la tête et qui a besoin, comme vous le dites, d'avoir des injonctions sociales toujours plus fortes, des campagnes marketing toujours plus fortes, pour réussir à faire tourner ce système comme le hamster dans sa roue.
Les réseaux sociaux comme Instagram suppriment tous les points de friction qui pourraient vous faire réfléchir et refuser d'acheter. Les firmes qui ont créé ces applications ont embauché des pointures, pas seulement en informatique, mais aussi en psychologie et en neurosciences, afin de développer ces applis pour déclencher une réponse émotionnelle forte, notamment la réponse dopaminergique du cerveau qui va rendre l'expérience addictive et donner envie aux gens de revenir et d'utiliser l'appli encore et encore.
Nous passons entre 2 et 3 heures par jour devant notre téléphone. Un utilisateur sur 2 a une application de shopping.
Il y a un mécanisme de drogue, c'est assez frappant. Les gens achètent des quantités, on dit, mais vous les portez quand ?
Internet, c'est le nouveau centre commercial. La jeune génération achète sans arrêt, parce qu'elle est constamment en ligne et qu'elle n'arrête pas de cliquer. Votre carte bleue est enregistrée dans votre téléphone. Vous voyez un produit, vous cliquez et il est livré chez vous.
On est dans la théorie des dealers et des consommateurs de drogue. Qui faut-il incriminer ? Est-ce qu'il y a des consommateurs parce qu'il y a des dealers ? Est-ce qu'il y a des dealers parce qu'il y a des consommateurs ? On est dans ce mécanisme. Mais pour l'instant, les dealers vont très bien.
Extrait du documentaire Fast Fashion, les dessous de la mode, diffusé sur Arte cette année. Audrey Millet, sur la responsabilité des designers, des journalistes de mode, des publicitaires, des neuromarketeurs, des algorithmes, dans notre attrait absolument incroyable pour les nouvelles tendances de cette mode jetable.
Alors le coup de génie des dernières innovations sur les réseaux sociaux et donc de la part des marketeurs, c'est l'analyse des sentiments. Mmh. Et si quelqu'un comprend vos sentiments, la personne avec qui vous vivez, vos amis, il a tout compris. Et maintenant on analyse nos sentiments et vous savez comment, hein, à coup de like. Hein. Et ça, en fait, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce qu'ils ont bien compris, ils ont certainement lu il y a un an Stéphane Boller, Le Bug Humain, qui en fait explique...
Sébastien Boller, qui est le rédacteur en chef de Cerveau et Psycho.
Sébastien Boller, Le Bug Humain, qui en fait explique que l'homme a 5 points essentiels dans sa vie. Numéro 1, se nourrir. 2, se reproduire. Et 3, améliorer son apparence. C'est en numéro 3. Et 5, minimiser ses efforts. Donc on est bon là dans la fast fashion, hein. Et en fait les marketeurs ont tout capté, c'est neurologique.
Et oui, les slogans nous vendent de l'amour, de la réussite, de la qualité, tout ça suscite du désir qui nous pousse à acheter, c'est absolument irrésistible.
C'est irrésistible, c'est un peu un centre commercial finalement, c'est un grand 8, vous savez, c'est un grand centre un grand parc d'attractions, comme on peut les trouver là, énorme en Allemagne. Et quand vous montez sur le grand 8, vous allez chez Zara, quand vous passez juste à côté, vous allez chez H&M, et vous payez d'ailleurs une petite glace, tout le monde se cautionne, tout ce jeu en fait, vous allez laisser beaucoup d'argent, essayons juste de ne pas être seulement des porte-monnaies.
Et il ne faut pas oublier que le vêtement est un critère majeur, fondamental, pour évaluer une personne. Le style, la mode, indique le degré d'intérêt apporté à une personne.
Le degré d'intérêt est, je crois, pire encore, le degré de pauvreté. C'est-à-dire que quand on est beau, quand on est bien habillé, quand on a le dernier truc, ça appelle le succès, comme sur Instagram. Vous savez, j'ai la même veste que un tel.
Et si vous n'avez pas, bah peut-être que vous êtes un peu pauvre et puis pas dans le coup.
Catherine Doriac.
Alors, je ne sais pas si on peut parler de solutions ou d'idées à donner aux marques pour sortir justement de cet engrenage. Mais moi, je pense que les marques devraient regarder vers les 38% de la population qui ont des problèmes de handicap ou des problèmes de maladies, de peau. Et notamment, il y a des associations qui travaillent là-dessus avec les marques pour permettre à tout le monde de pouvoir s'habiller, pas seulement en fast fashion, bien sûr. Mais aussi simplement sur des nouveaux critères et des nouveaux domaines d'utilisation de matières naturelles, d'utilisation de vêtements qui ne font pas de bruit par exemple, ou de choses comme ça. Je pense que c'est très important, que ça c'est un des futurs de la mode.
Et on y reviendra tout à l'heure. Thomas Ebélé.
Oui, moi je trouve qu'il y a un autre effet pervers aussi dans la fast fashion, c'est que Catherine l'abordait juste à l'instant, mais il y a une non-inclusion, c'est-à-dire que les modèles sont taillés pour un 36-38 sur le féminin, par exemple, et ça représente à peine 3% de la population française. Donc le fait de ne pas avoir des vêtements qui soient adaptés à sa morphologie, ça fait que le vêtement, on le porte une fois, on le porte deux fois, et on va le jeter beaucoup plus rapidement.
Julien Bisson.
Ce qui est frappant, c'est de voir que depuis en 20 ans à peu près, on achète 60% de plus de vêtements en Occident par rapport à l'an 2000, alors qu'a priori, on ne porte pas plus de vêtements tous les jours. Il y a toujours le même nombre de jours dans l'année, et a priori, on ne met pas plus de vêtements.
Vous ne changez pas trois fois par jour, vous?
Ça m'arrive peu. Mais ça montre bien qu'il y a aussi une explosion du nombre de vêtements qu'on achète. Et c'est vrai qu'on a parlé rapidement un petit peu de ces applications qui permettent la consommation en ligne. Et c'est dans cette consommation en ligne, il y a en effet une facilitation de l'acte d'achat qui est assez problématique. Les prix, on peut jouer sur les prix pour réussir à avoir des vêtements toujours moins chers. Mais ça n'a pas pour objet finalement d'avoir des habits qui soient meilleurs ou qu'on va garder plus longtemps, bien au contraire. Donc on a davantage d'habits qu'on va être capable de pouvoir renvoyer aussi plus facilement, parce que ça fait partie aussi du pacte qu'on fait avec ces plateformes de vente en ligne. On va pouvoir renvoyer les produits, ce qui va pas du tout être ni bon pour l'environnement, ni bon d'un point de vue social. Et donc il y a aussi, de ce point de vue-là, la consommation en ligne, une espèce de dégradation supplémentaire par rapport à l'histoire de la fast fashion qu'Audrey Billet nous raconté tout à l'heure, c'est presque encore une industrialisation nouvelle de cette fast fashion.
Audrey Millet.
Oui, on est véritablement pris, finalement, on est dans une grande machine. Nous sommes dans une grande machine. Et cette grande machine, actuellement, elle est faite à partir des applications. C'est-à-dire qu'on voit également que la monnaie, c'est-à-dire le billet, cette monnaie qui fait du bruit, disparaît. Et en fait, on paye par QR code, ce genre de choses. Tout ceci, en fait, facilite l'achat. Alors cet achat qui, en fait, disparaît.
Le clic unique, le one click aussi, c'est sur les applications d'achat en ligne, c'est absolument redoutable.
Oui, puis on se dit, on peut peut-être les renvoyer. En fait, on renvoie quand même assez peu, mais il y a toujours cette option qui vous... Bon, vous pouvez faire un mauvais choix. En fait, c'est assez frais.
Et ou les renvoyer ou les revendre. D'ailleurs, maintenant, il y a aussi des applications, il y en a de très célèbres qui permettent de revendre très facilement ces habits. Ça pourrait être utile si ça permettait justement de vider nos garde-robes, mais ça sert surtout à faire de la place pour pouvoir les re-remplir.
Il ne faut pas oublier que quand on renvoie ces vêtements au site sur lesquels on les a commandés, ils sont la plupart du temps détruits et non pas remis dans le circuit.
Allez, dans un instant, on s'intéressera aux conséquences de la mode jetable, de la fabrication à la benne à ordures. En attendant, on écoute Brigitte, battez-vous.
Car superstar, j'ai tellement besoin d'amour, de tes bras, de ta voix de velours. Sortez les dollars et les bijoux,
mettez-vous à genoux.
Dans la Jaguar, dans la Gadoue, mettez-vous à genoux, toi mon tout mon loupard. Superstar, j'ai tellement besoin d'amour, de tes bras, de ta voix de velours.
living, de kidnapping, de quitter mon pauvre living. Je veux du swing et du bling bling, et que le meilleur gagne sur le ring. Toi mon tout, mon loupard, tu serais mon lascar superstar. Et moi j'ai si peur dans le noir.
Brigitte, interprétée, battez-vous.
Une journée pour le climat. 10 jours avant la COP26. Sur France Inter.
10h33 et on s'intéresse ce matin aux dessous noirs de la mode. Quand la mode jetable, la fast fashion, génère des nuisances sociales et environnementales. Toutes vos questions au 01 45 24 7000.
Produire des vêtements à bas prix a un coût environnemental très élevé. Le textile serait la deuxième industrie la plus polluante au monde, après le pétrole.
Pour une tonne de textile, il y a 200 tonnes d'eau polluée. Le ratio, c'est 1 pour 200. Si on n'améliore pas les technologies d'épuration, plus il y aura de commerce, plus il y aura de pollution. Si l'industrie textile croît de 60% dans les 10 ans qui viennent, il faut s'attendre à 60% de pollution supplémentaire.
Extrait du documentaire Fast Fashion, les dessous de la mode. La mode est-elle vraiment la deuxième industrie la plus polluante au monde, comme l'affirme ce documentaire? Et puis on voit ce chiffre un peu partout. Catherine Doriac, vous êtes présidente de Fashion Revolution France. Ce chiffre, il circule beaucoup.
Il circule, mais il a jamais été sourcé. Ouais. Il y a eu un article dans le New York Times, justement, qui revenait là-dessus. Alors, on dit la deuxième industrie la plus polluante. De toute façon, c'est une des industries les plus polluantes. Mais il faut arrêter de stigmatiser et donner des chiffres qui sont faux.
Ouais. Audrey Millet, historienne, chercheuse et ancienne styliste, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit ?
Oui, on a beaucoup de mal avec les chiffres en fait. C'est la raison pour laquelle à Oslo, on travaille. On a une équipe sur les industries créatives et on travaille dessus en fait. Parce qu'il nous faut des sources, il nous faut des chercheurs. Alors, en histoire bien entendu, il nous faut aussi des sciences dures. On a besoin des sciences dures, c'est très important. Et on n'arrive pas à compter le nombre de culottes et de chaussettes partout dans le monde qui sont jetées. Donc ça, nous devons l'admettre. Travaillons dessus, travaillons avec les industriels, parce que ça c'est très important, ils veulent faire des efforts également.
Thomas Ebele, cofondateur du label Slow We Are.
Ben, monsieur Jankovic le disait ce matin sur votre antenne, dans le textile, il y a énormément de pétrole. Même si la mode n'est pas la deuxième industrie la plus polluante au monde, on sait que majoritairement, c'est aujourd'hui des matières issues du pétrole. C'est 67% des matières textiles qui sont issues du pétrole. Tout ce qui va être issu de la pétrochimie pour les teintures, pour les après, pour même la production d'énergie, donc du pétrole, on en trouve partout. Donc finalement, la contribution de l'industrie pétrolière dans le textile, elle est hyper importante. On le voit aussi avec les matières novatrices qui sont de la revalorisation à la base de déchets de l'agroalimentaire. Donc il y a aussi une surproduction alimentaire. C'est bien de transformer des déchets en nouvelles ressources. Par contre, si c'est pour y rajouter du plastique et du polyuréthane, ça n'a pas vraiment de sens.
Alors Julien Bisson, quelles sont les grandes étapes de la vie d'un vêtement et de son impact social et environnemental? Vous proposez dans le numéro du 1 de cette semaine un très beau poster avec ces différentes étapes. Tout d'abord, la production de la matière première. Il y a d'un côté les matières naturelles et les matières chimiques dont vient de parler Thomas Ebele.
Oui, on voit bien qu'en fait à chaque étape, il est difficile de ne pas constater les pollutions environnementales ou les dégâts sociaux. Dès l'étape de la production, il y a en effet, on peut dire à peu près un tiers de matières naturelles, les matières naturelles, c'est le coton, le chanvre, le liège, la jute, le cachemire, la laine ou la soie, et deux tiers de matières chimiques. Et les matières chimiques, c'est essentiellement en effet des dérivés du pétrole, le polyester, à commencer par le polyester. Le polyester qui est une matière qui est vraiment problématique à la fois dans sa production et ensuite dans ce qu'elle va rejeter. Quand on lave un vêtement au polyester, on va avoir tendance à rejeter dans les eaux usées et ensuite dans les océans des tonnes de microplastiques qui ne sont pas dégradables.
Les matières chimiques, oui, mais le coton aussi, Audrey Millet, pose beaucoup de problèmes.
Le coton pose beaucoup de problèmes, alors parce qu'il s'agit en fait d'une matière qui est le fruit de l'esclavage à la base. Donc l'esclavage afro-américain, pour pouvoir avoir cette matière qui coûtait moins cher au final, hein, quand on achetait du textile, et c'était très bien. Ça permettait la démocratisation. Il fallait une main-d'œuvre, disons-le clairement, gratuite. À la fin de l'esclavage, lors de l'abolition de l'esclavage, les Américains ont trouvé les Mexicains. Voilà, on leur a fait des contrats qui les fixaient en fait à un endroit. C'est terrible, hein. Et on leur mettait un petit supermarché, une petite école pour les enfants. Encore l'esclavage. Et on sait aujourd'hui les problèmes qu'on a avec le coton, que ce soit au nord-ouest de la Chine ou même dans les autres pays, parce que pour être esclave, hein, il suffit pas d'avoir des fers aux pieds. Alors on a ce problème-là, mais aussi des produits pour teindre le coton, parce que ces produits peuvent être toxiques. Mercure, barium,
cadmium.
Terrible, des produits terribles, qui en plus favorisent l'infertilité.
Sur l'impact écologique du coton, Catherine Doriac.
L'impact écologique du coton, alors il y a déjà les pesticides, comme on l'a dit, il y a le travail humain, bien sûr, le travail d'esclaves, et ça c'est écologique et sociologique. On a aussi l'eau, le coton, et alors il faut faire attention, on dit toujours que le coton c'est 20 000 litres d'eau, là ce sont des chiffres qui sont pas du tout sourcés. On est plutôt entre 2 000 en moyenne, hein, parce qu'il y a des pays qui ont besoin d'irrigation, d'autres pays pas. Il faut faire attention entre l'irrigation naturelle qui vient du ciel et l'irrigation qui vient des nappes phréatiques. Donc c'est à peu près, pour dire un chiffre qui vient plutôt de sortir là, c'est plutôt 2000 euros pour un kilo de coton.
2000 litres d'eau.
Excusez-moi. Oui, 2000 litres d'eau, oui, pour un kilo de coton, encore avec des aménagements.
Julien Bisson, oui, la suite peut-être étapes.
Je veux dire sur l'eau pour le coton, on a vu avec la mer d'Aral notamment en Ouzbékistan qui a été largement asséchée à cause de la production du coton pour des besoins d'irrigation. Alors après la production de la matière, en effet, il y a la transformation en tissu et là on a déjà évoqué un peu la question des teintures, mais même la question de la filature va avoir aussi des dégâts très importants. On cite notamment une étape auquel on pense pas, qui est celle du sablage. Le sablage, ce qui permet de donner un aspect vieilli au jean. Comme ça, vous allez acheter votre jean, il n'a pas l'air d'être tout neuf, il a déjà un aspect un peu vintage qui vous intéresse. Et bien, il faut savoir que cette étape du sablage, cause des grands risques d'exposition aux silicoses et une maladie pulmonaire incurable chez tous les ouvriers qui vont pratiquer cela. Et cet exemple, c'est un exemple qu'on va retrouver dans énormément d'étapes dans cette transformation du tissu en vêtements et qui vont avoir des conséquences sanitaires sur les ouvriers.
Audrey Millet.
Oui, le sablage est extrêmement dangereux. Alors, de temps en temps, les ouvriers ont... vous voyez nos petits nos masques contre le Covid, hein, voilà. En fait, ils ont ça, alors qu'ils sont en train de sabler. Et par exemple, le sablage a été interdit en Turquie. On fait des progrès, hein, mais c'est insuffisant. Tout ça, finalement, pour un jean, encore un, qui n'est pas aussi original que ça, hein, parce que des jeans avec un effet usé, on en connaît tellement. Et combien on en a dans le placard? Combien?
Ensuite, la confection du vêtement, qui a un impact environnemental et social. Évidemment, le travail à la chaîne, l'exploitation des femmes et aussi des enfants.
Oui, c'est vrai que c'est essentiellement des femmes. Et ce qu'on cite aussi comme chiffre dans le numéro, c'est le fait que si on augmentait, si H&M ou des enseignes comme H&M augmentaient de 15 centimes le prix de ces vêtements, ça permettrait de doubler, voire tripler le salaire des ouvrières. Donc quand on dit en fait, ah mais si les vêtements étaient plus chers, je ne pourrais plus me les payer. Si on payait, si je devais payer véritablement les ouvrières là-dessus, je ne pourrais plus me les payer. Non, c'est pas du tout vrai, puisque dans le prix d'un vêtement, on décompose aussi un t-shirt à 29 euros. Qui gagne quoi sur un t-shirt à 29 euros? C'est évidemment du côté des ouvrières que le revenu est le plus faible.
Audrey Millet.
La question des femmes est tout à fait essentielle. Dès le XVIIe siècle, on a des femmes dans les arrière-cours de Paris et de Londres, dans des conditions sanitaires terribles. Et vous voyez toutes ces lois du XIXe qui ont amélioré un petit peu la condition. Elles ont été demandées également par les consommateurs parce qu'ils avaient peur d'attraper les maladies que ces ouvrières avaient. Et je vous donne un autre exemple, fin 19e, en Iran, lorsqu'on fait les tapis à la chaîne, hein, les femmes s'occupent également des enfants qui viennent à l'usine, et en fait les enfants, pour qu'ils n'embêtent pas les femmes et ne stoppent pas le travail, on les drogue à l'opium. En fait, ce qui se passe aujourd'hui en Inde, alors on a aussi cette fameuse coutume du Sumangali, hein, en
c'est
Inde. Alors cette coutume, c'est on explique aux filles de la campagne qu'il faut aller travailler en usine avec un petit contrat de 3-4 ans pour pouvoir accumuler quelques sous pour leur dot. Oui. C'est gravissime.
Quatrième étape, Julien Bisson, de l'usine au client.
Oui, et alors ça, on voit là pour le coup ces grandes chaînes de valeur internationales intégrées et qui reposent sur des transports, sur des distances folles.
Par exemple, un jean peut parcourir jusqu'à 65 000 kilomètres, soit une fois et demi le tour de la Terre.
Oui, du champ de coton à la boutique. Il faut vous dire que votre jean a peut-être cumulé 65 000 kilomètres, et ça veut dire que c'est autant de carburant dépensé dans les grands bateaux qui vont l'avoir transporté. Et on le disait, c'est aussi vrai quand vous voulez renvoyer les vêtements, là aussi, ça va repartir, et ça repart pas si votre vêtement que vous avez acheté à Paris ou à Bordeaux ou à Montpellier va pas repartir juste à côté, va plutôt repartir au fin fond de l'Europe de l'Est, en Estonie, en Pologne, et sans doute, et parfois ne va jamais revenir. Et dans ce cas-là, quand on dit qu'il ne va jamais revenir, c'est qu'il va être revendu dans des associations ou qui vont envoyer les vêtements en Afrique, où on va souvent les retrouver jetés sur les plages.
Catherine Doriac.
Moi, j'avais envie de revenir sur la conversation précédente au niveau du travail des enfants. En fait, on s'est rendu compte depuis 2 ans, depuis la pandémie, que les enfants étaient retournés au travail partout dans le monde. Enfin, dans les pays asiatiques, bien sûr, plutôt qu'ici. Mais on a 260 millions d'enfants aujourd'hui qui sont au travail. Donc ça, c'est quand même un problème qu'il faut connaître. Évidemment, au retour des vêtements, comme on le disait tout à l'heure, bien sûr, alors tout ça retourne dans les centres de tri. Et en Europe, on a de grands centres de tri, notamment en Pologne et en Allemagne. Mais seulement 1% de ces vêtements vont être renvoyés pour de la seconde main. Tout le reste par...
Beaucoup de questions qui vont dans le même sens, des auditeurs qui nous disent « Moi, j'ai pas les moyens de me payer un t-shirt fabriqué en France à 80 ou 100 euros. J'ai pas les moyens, donc je vais acheter un t-shirt chez Primark, chez Zara ou chez Uniqlo à 5,90 € ou à 12,90 €. » Audrey Millet, qu'est-ce qu'on répond à ces auditeurs?
Eh bien, je dis à ces auditeurs qu'ils ont bien raison de soulever la question économique, tout simplement, parce que on nous a fait croire, pour qu'on rachète plus souvent, qu'un vêtement valait 2 euros. Un vêtement, ça vaut pas 2 euros, hein. Un vêtement, ça vaut des personnes. Il y a des gens. Et puis, nous aussi, on le vaut bien. Alors, pour pas plagier un slogan. Mais l'air de rien, on le vaut bien aussi. Alors, comment faire? Bon, on peut commencer par quelque chose de très simple, hein. Le 7e t-shirt noir, c'est pas la peine. Et donc, il faut entretenir ses vêtements. Il y a quand même une autre relation à entretenir avec la machine à laver, hein, et même avec ce vêtement qu'on lave à la main parce qu'il est dans telle matière. Il faut également se demander, en question de fond, pour quelles raisons aujourd'hui on ne peut s'acheter qu'un t-shirt à 3 euros. Si le problème n'est pas ailleurs, et si le problème n'est pas salarial, ne relève pas des salaires, et qu'est-ce que vaut notre travail ? Et il y a toute cette question qui nous revient en Occident, en plein dans la tête, hein, du salaire vital, mais ça, je pense que Catherine Doriac sait mieux en parler que moi.
Salaire vital, oui, qu'est-ce qu'un salaire vital? C'est certainement pas un salaire minimum. Le SMIC en France n'est pas un salaire vital. Et le sujet de l'année prochaine, le grand sujet, ça va être cette histoire de salaire vital, c'est-à-dire un salaire qui permet de se nourrir, de se loger, d'avoir des soins de santé, de s'habiller, d'éduquer ses enfants, et surtout, en plus, de pouvoir garder de l'argent pour en cas de coup dur. Donc le salaire vital, c'est un problème écologique, social, c'est un problème hyper important.
Bonjour Sybille, bienvenue.
Bonjour.
Vous appelez de Chambéry, quelle est votre réflexion, Sybille?
Oui, alors en fait, merci de parler beaucoup des conditions sociales au niveau des usines. Mais c'est vrai que les marques maintenant, les usines sont quand même extrêmement suivies par les grandes marques, il y a beaucoup de réalisations d'audits. La question c'est plus au niveau de la production de la matière première, notamment du coton, comment est-ce qu'on peut sensibiliser beaucoup plus le consommateur à réfléchir d'où provient la matière du coton? Comment est-ce qu'on peut aussi sensibiliser les marques au niveau de l'achat de leur matière, leur dire bah écoutez, maintenant n'achetez plus du coton chinois, mais c'est des choses qui sont hyper compliquées parce que ça représente 20% du coton mondial au minimum. Et aussi on parle beaucoup du Made in France, mais il faut quand même pas oublier que le coton vient quand même de l'autre bout du monde. Et donc vraiment, pour ne pas partir dans un greenwashing, vraiment dire quelle étape est réellement réalisée localement en France.
Voilà. Thomas Ebélé sur la réflexion de Sybille.
Il y a plusieurs choses, plusieurs thèmes qui ont été abordés. Alors tout d'abord, du coton, il vient pas forcément de l'autre bout du monde. On peut trouver du coton même biologique en Grèce ou en Espagne ou en Portugal. Bien sûr, c'est pas des grosses quantités, mais il faut réfléchir beaucoup de manière beaucoup plus locale sur la partie origine des matières. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en France, la seule mention qui est obligatoire sur l'étiquette d'un vêtement, c'est l'étiquette de composition. Il y a une réflexion qui est en cours et qui va rentrer en vigueur en 2022, c'est l'affichage environnemental. Donc avoir un bilan, on va dire, écologique de la production du vêtement. Mais c'est pas forcément suffisant parce qu'il faudrait plus de traçabilité sur l'origine des matières, sur où elles ont été transformées, dans quelles conditions. Il y a vraiment une réflexion à avoir d'un point de vue de l'affichage et social et environnemental sur le vêtement.
Thomas Ebélé, comment repérer les véritables... Merci beaucoup, Sybille, de nous avoir appelé. Comment repérer les vraies initiatives éco-responsables et celles qui ne relèvent pas d'un marketing vert? Est-ce que vous avez quelques conseils à nous donner?
Alors, nous, on a créé une petite méthode qui s'appelle la méthode green pour lutter contre le greenwashing. C'est gratter un petit peu le discours pour s'assurer vraiment qu'il n'y ait pas d'incohérence. C'est repérer justement ces incohérences. C'est évaluer les labels. C'est examiner les étiquettes. Et en fait, quand on a fait ces quatre étapes-là, il faut que ça nécessite une vraie cohérence. Il faut vraiment que les informations ne soient pas simplement des allégations, qu'on ne fasse pas juste un focus sur le côté recyclé d'une matière ou le côté biologique d'une matière, mais se dire est-ce que cette matière biologique, parce que y a, parmi les marques qui ont été citées tout au long de l'émission, certaines se revendiquent d'être faites à partir de matières éco-responsables, mais dans éco-responsable, il y a responsable. Et c'est pas parce qu'on va avoir le pendant environnemental qui va être OK parce qu'on est sur du coton biologique qu'il n'y a pas une transformation qui est faite dans de mauvaises conditions, de filature, de récolte du coton, etc. Et je rebondis juste sur un point de la question de Sybille qui disait avant que les marques travaillaient aujourd'hui avec des usines qui sont auditées. Le problème, c'est que souvent, ces usines, elles surventent leur capacité de production et elles vont sous-traiter à d'autres ateliers, à d'autres usines de confection qui, elles, ne sont pas auditées du tout et qui vont finalement continuer à travailler dans les conditions qui sont dénoncées par Audrey.
C'est quoi le greenwashing en quelques mots pour ceux qui ne connaissent pas Catherine Doriac?
C'est laver plus vert, c'est-à-dire avoir un discours éco-social responsable.
En décalage avec la réalité.
Voilà.
Allez, dans quelques instants, on s'intéresse aux alternatives à cette mode jetable. Et en attendant, on écoute Silk Sonic qui interprète Skate. Sonic interprété Skate.
France Inter, une journée pour le climat.
Et on s'intéresse ce matin à 10h54 au dessous noir de la mode, quand la mode jetable génère des nuisances sociales et environnementales. À ce sujet, Victorien Thomas a tendu son micro dans les rues de Paris.
Ah bah c'est le coup de cœur, uniquement.
Coup de cœur.
Ouais, de la marque ou de ce que je vois sur les réseaux sociaux, en tout cas ça, qui m'inspire.
Quand j'ai le coup de cœur, après, en général, je regarde d'où il a été fait.
Par exemple, je vais souvent en fripe. Je trouve que c'est plus économique que les grands magasins qui coûtent deux fois plus cher.
Des fois, je remets dans les rayonnages.
Moi, j'aime bien pouvoir acheter plein de trucs, donc pourquoi pas aussi bénéficier du fait que le produit est pas cher. Pour pouvoir acheter plusieurs types de produits plutôt qu'un seul produit pour l'environnement.
Et donc je pense que ça va venir. Maintenant, le moment un peu crucial qui va faire la différence, je pense que ça va plutôt être sur le prix qu'on va réussir à mettre. Puisque aujourd'hui, si ça continue à marcher, que ce soit les marques comme du groupe Inditex ou Primark et toutes ces marques très low cost. C'est pas si ça marche toujours, malgré tout, c'est à cause du prix. Donc il faudra faire en sorte que les marques durables choisissent une gamme de prix qui soit abordable quand même. Et quand ça sera le cas, je pense que là, il y aura un glissement qui va se faire. Et effectivement, je pense que les marques de fast fashion vont commencer un peu à soit appliquer une politique plus transparente sur la provenance et toutes ces choses-là. Et là, les consommateurs vont plus basculer sur quelque chose de plus durable et plus respectable éthiquement.
Micro-trottoir de Victorien Thomas. Au terme de cette émission, quels conseils donnez-vous à nos auditeurs pour réduire l'impact social, environnemental des vêtements que nous achetons tous, Catherine Doriac?
Moi, je dirais la première chose, c'est de regarder son vestiaire, de trier, l'entretenir comme il faut, le réparer, parce que la réparation...
Le raccommoder, rapiécer.
Exactement, ça, c'est des savoir-faire qui ont été perdus, qu'on retrouve aujourd'hui à travers d'ateliers. Et c'est comme ça qu'on fera durer le vêtement le plus écologique qui est déjà dans notre garde-robe.
Audrey Millet.
Oui, la même chose. En fait, on a plein de choses dans notre dressing. Alors, le raccommodage, bien entendu, c'est quand même difficile de raccommoder un petit pull Zara, tout ça. Bon, par contre, si vous en avez un, que vous avez un petit peu économisé, que vous aimez d'amour, qui vous chérit, là, c'est vraiment le moment de le sublimer et encore plus, finalement, de rentrer dedans, quoi.
Audrey Millet, le marché de la seconde main. Vous êtes très critique dans votre livre sur ce marché de la seconde main.
Moi, j'aime pas que l'Afrique devienne la poubelle de l'Occident. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui finissent là-bas. Même les tailleurs du Ghana, qui sont des génies de la couture et de la forme et de la coupe, n'arrivent plus à utiliser la seconde main qu'on leur envoie pour refaire des vêtements, parce que c'est du polyester dégoûtant. Et la seconde main, si c'est pour acheter autant, c'est pas la peine. Et c'est difficile de trouver un petit pull noir tout simple, hein, en seconde main, parce que c'est vraiment la petite perle qui va vous plaire, et toutes les tailles.
Thomas Ebélé, votre conseil fondamental au terme de cette émission?
En complément de ce qui a déjà été dit, c'est faire des achats, qu'ils soient de première ou de seconde main, qui soient toujours dans la même optique responsable, en privilégiant les matières naturelles, en privilégiant des bonnes qualités, des vêtements de bonne qualité, parce que finalement, même si on fait un achat, qu'il soit directement de fast fashion en première main ou en seconde main, eh ben on a un impact qui est désastreux et on sait que le vêtement va pas durer. Donc vérifier la qualité, les coutures et comme ça a déjà été dit, penser en termes d'usage et pas en termes de prix.
Et d'ailleurs, vous recommandez la règle des 3 avant d'acheter. Est-ce que j'en aurai envie dans 3 jours? Peut-on concevoir 3 tenues avec ce vêtement et ceux que je possède déjà? Et est-ce que je peux porter ce nouveau vêtement à 3 occasions différentes? La règle des 3, c'est vraiment une très très bonne règle. Mais merci à tous, hein, merci d'être intervenus dans cette émission. Merci Audrey Millet, le livre noir de la mode est publié aux éditions Les Pérégrines. Merci Catherine Doriac et Thomas Ebélé. Merci Julien Bisson. Le numéro de la revue, le 1 Hebdo, est disponible en kiosque, H&M, Zara, Primark. Comment la mode se fout de nous, c'est ça?
Du monde.
Qu'est-ce que j'ai dit? De nous, du monde. Voilà. Elle se fout de nous un petit peu parfois.
Aussi, c'est un peu partie de ce monde dont
c'est mon inconscient qui a parlé, voyez-vous Julien. Allez, demain, grand-mère vous fasse loisir.